Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. À tout de suite.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Elle ira. Marine Le Pen n'a que faire des recommandations du chef de l'État. Elle se rendra donc aujourd'hui aux cérémonies de panthéonisation de Missak Emeline Manouchian, résistant communiste d'origine arménienne. Une aberration pour tous ceux qui veulent rappeler que le RN est le petit frère du FN qui s'est construit avec d'anciens vichistes. Une nouvelle fois, la classe politique s'embrase sur la place qu'il faut donner aux partis d'extrême droite. En une semaine, Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont d'ailleurs tenu des propos opposés sur le sujet, le RN faisant partie de l'arc républicain pour le Premier ministre et en reste exclu pour le chef de l'État face à la poussée du duo Le Pen-Bardella. En réalité, c'est l'ensemble de la classe politique qui cherche encore les mots justes, la bonne stratégie pour contenir la dynamique. Une dynamique que l'on retrouve aujourd'hui dans la majeure partie des pays européens à la veille des élections du mois de juin. Manouchian, Marine Le Pen, une invitée pas comme les autres, c'est le titre de cette émission. Avec nous, Jérôme Jaffré, vous êtes politologue, chercheur associé au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Avec nous ce soir, Bruno Jeudy, vous êtes directeur délégué éditorialiste à la Tribune du Dimanche. Dans votre dernier baromètre politique, vous observez une légère hausse de popularité pour Emmanuel Macron et Gabriel Attal, mais aussi pour Jordan Bardella, dont nous allons parler ce soir, qui gagne 3 points dans le tableau des meilleurs opposants à droite et à l'extrême droite. Frédéric Saïs est avec nous ce soir. Vous êtes journaliste à la rédaction internationale de Radio France. Vous êtes spécialiste des questions européennes. Je rappelle votre dernier livre, Dans l'enfer de Bercy, aux éditions Jean-Claude Lattès. Enfin, Anne-Charlène Bézina, vous êtes constitutionnaliste et maître de conférences en droit public. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir.
Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. On pose la question ce soir. Marine Le Pen est-elle une invitée comme les autres, Jérôme Jaffré? En tout cas, elle a réussi à être au cœur du débat politique au moment de cet hommage à Missak Manouchian.
Ah, tout s'organise effectivement sur la venue ou pas de Marine Le Pen. Maintenant, la cérémonie ira bien sûr
oui, bien
au-delà. Voilà, c'est une cérémonie extrêmement importante et qui ne se résume pas à Marine Le Pen. Reste quand même que ce qui est vrai dans ce qu'a déclaré Emmanuel Macron, qui a dit qu'elle serait bien inspirée de ne pas venir, selon cette formule, mais qu'il ce serait une position arbitraire de l'empêcher de venir.
C'est dû en même temps.
Il faut dire les deux choses. C'est que, effectivement, c'est à l'opposé non seulement de l'histoire du Rassemblement national, la cérémonie en l'honneur de Manouchian, mais Manouchian, c'est un internationaliste communiste, c'est-à-dire l'opposé même de tout ce que représente le Rassemblement national, parti qui s'oppose absolument à tout ce qui est internationaliste et qui a lutté contre le communisme en permanence.
Alors, résistant étranger, arménien.
Voilà. Et alors pourquoi vient-elle dans ces conditions? Je dirais d'une part, c'est un processus d'institutionnalisation. Quelqu'un qui veut devenir président de la République et qui maintenant croit manifestement qu'elle va le devenir, estime qu'elle doit aller partout où la France s'exprime, où elle peut venir comme parlementaire et à ce moment-là montrer que rien ne lui est interdit. C'est une rupture aussi quand même avec le passé. C'est-à-dire qu'elle dit clairement que le passé du Front National et de Jean-Marie Le Pen, son père, ce n'est pas le sien et qu'elle ne se reconnaît pas dans cet héritage.
Elle ne le dit pas.
Oui, mais c'est sous-entendu.
Oui.
C'est sous-entendu dans le fait de venir rendre hommage à l'internationaliste et aux communistes. Oui. On peut le lire ainsi. Et dernier élément, puisqu'Emmanuel Macron ne veut pas qu'elle vienne, eh bien évidemment,
elle ira.
Elle vient, c'est le béaba de la politique. Vous contrez l'interdiction en disant mais c'est outrageant ce que dit Emmanuel Macron sur le parti. La preuve, je viens.
Elle avait respecté la consigne pour l'hommage à Robert Badinter parce que c'était une consigne et une volonté de la veuve de l'ancien garde des Sceaux.
Voilà, c'est différent. C'était une proximité dans le deuil
qui
n'était pas du même ordre. Et là, donc, c'était une attitude très respectueuse. Et c'est l'inverse. Là, c'est la France insoumise dont 2 représentants étaient venus à l'hommage à Robert Badinter.
Bruno Jeudy, sur cette consigne bien mesuré, comme vous l'avez bien expliqué, du président de la République qui, au fond, se heurte à la volonté de Marine Le Pen de montrer qu'elle est une invitée comme les autres.
Oui, je partage l'avis sur le fait qu'à partir du moment où Emmanuel Macron dit qu'elle serait inspirée de ne pas venir, évidemment qu'elle vient. Alors, est-ce sa place?
C'est la question qui est posée ce soir.
Oui, je pense qu'il y a 2 aspects. D'abord, si on se place sur le plan moral, on peut se dire effectivement que tous ceux qui se revendiquent encore ou philosophiquement du groupe Manouchian, qui pour ceux qui les familles de ces 23 membres qui sont condamnent sa venue, ne veulent pas qu'elle vienne, sur le plan purement moral, oui, Marine Le Pen est l'héritière d'un parti fondé par autour de Jean-Marie Le Pen par des gens qui étaient absolument engagés pour aider Hitler à conquérir la France.
C'est pas une légende, hein.
C'est pas une légende. Dans les membres fondateurs, il y a des gens issus de la Waffen-SS, des gens des miliciens, des gens de Vichy. Enfin, c'est pas le casting et pas honorable de ce point de vue-là. Il y a absolument pas de doute. Donc, d'un point de vue moral, on peut comprendre que et toute une partie des Français qui se disent mais qu'est-ce qu'elle fait là? Voilà. Et d'autant plus qu'elle n'a pas condamné expressément toute cette histoire du parti. Elle a exclu son père du parti pour des raisons politiques. Enfin voilà, mais elle s'est jamais. Enfin, je sais pas. Elle aurait pu, par exemple, écrire une tribune ces derniers jours pour s'expliquer sur la longueur, pourquoi elle vient, ce que ça représente. Voilà. Non, Jordan Bardella ce matin a dit la République nous invite, on vient. Bah, c'est un peu court quand même.
Et il dit le président n'a pas à trier qui sont les bons et les mauvais élèves de la République.
Oui, mais c'est quand même un peu court comme explication. C'est pas n'importe quel parti. Après, sur le plan politique, oui, elle a sa place. C'est pas discutable. Emmanuel Macron lui-même associe le Rassemblement National aux travaux des rendez-vous de Saint-Denis où le président du parti était associé, comme tous ceux qui sont représentés au Parlement. Et donc sa place sur le plan pur politique, sur le plan institutionnel, n'est pas
contestable. Vous mettez là en relief toute la difficulté dans le débat politique depuis des mois, des années, sur la morale. Et l'enjeu politique, et on va beaucoup en parler ce soir, puisque certains cherchent encore les mots et la stratégie.
Elle aurait pu, Caroline, elle-même faire un pas à ce moment-là et s'expliquer plus longuement sur
les rapports qu'elle entretient avec l'histoire de son parti.
Et rompre beaucoup plus qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent.
Frédéric Saïs.
Mais comme dit l'adage, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Et si elle fait ce travail que vous évoquez à juste titre, elle perd, entre guillemets, aussi son aile droite, si l'on peut dire, l'aile droite du Rassemblement National, qui pour le coup, à qui ça ne fera pas plaisir qu'elle s'inscrive pleinement dans une histoire qu'il considère peut-être comme mainstream ou comme pas fidèle aux valeurs justement héritées de cette famille politique depuis 1972, depuis la fondation du Front National. C'est intéressant parce qu'il y a un dilemme pour le gouvernement et l'exécutif plus largement à inviter ou pas, publiquement ou pas, des personnalités comme celle-ci. Imaginez que le gouvernement dise « on n'invite pas ». Marine Le Pen pour cette cérémonie au Panthéon, car on juge justement moralement que c'est indéfendable. Évidemment, ce serait une prime à la victimisation inespérée pour le parti de Marine Le Pen qui dirait « observez comme on est mis de côté, comme vous les électeurs, finalement ce système ne nous considère pas comme des personnalités à part entière ». Par ailleurs, comment vous faites si elle décide malgré tout venir? Est-ce que vous mettez un service d'ordre qui va expulser Manu Militari, les gens du RN, dans une journée de commémoration et d'unité nationale? Ça la foutrait mal au niveau des images. Et là encore, vous donnez quelques points supplémentaires pour les Européennes.
Donc il n'y avait pas de bonne solution.
Et à vrai dire, les partis de gouvernement, comme l'on dit, même si cette expression est un peu là aussi floue, tournent autour de ce sujet depuis des années. Souvenez-vous, Bernard Tapie, en 1992, engagé pour les régionales en PACA à l'époque, qui dit « les électeurs de Le Pen sont des salauds ». Le mot avait fait polémique, etc. Et à l'inverse, Nicolas Sarkozy avait dit « Le Pen est compatible avec la République ». 2012, pour le coup, ça avait fait aussi une polémique. Donc, il n'arrive pas vraiment à...
Et nous allons en reparler parce que désormais, il y a eu une expression qui est utilisée dans le débat public, essorée même, qui est l'arc républicain. On finit plus par savoir de quoi il s'agit. On va en parler dans un instant. Toujours sur cet hommage avec vous, quelle est votre lecture, au fond, sur la place de Marine Le Pen dans cet hommage? Est-ce qu'il n'y avait pas de bonne solution, comme vient de le dire à l'instant Frédéric Saïs? Est-ce qu'au fond, c'est une façon de rompre avec son histoire en honorant des communistes étrangers, internationalistes, chantés par Léo Ferré, qui ne sont pas tellement la culture politique de son parti?
Moi, je crois que c'est ça, la vraie question, c'est peut-on traiter différemment des invités qui veulent justement être considérés comme des invités normaux? C'est la question que vous posez. Est-ce que c'est une invitée normale comme les autres? Eh bien, elle souhaite le devenir. Donc, il y a quand même une rupture idéologique avec les origines historiques de son parti. C'est-à-dire qu'elle-même édulcore le message historique de ce parti national. Et donc, elle s'inscrit qu'elle le veuille ou non, en faux avec cet héritage-là.
C'est un manque de cohérence.
Je crois en tout cas que c'est soit une démarche d'évolution, et là je vous rejoins largement, il aurait fallu l'argumenter un petit peu plus, mais comme vous le disiez, avec un risque politique énorme, soit en effet un manque de cohérence dans en tout cas dans la lecture qu'on peut faire de cette invitation. Et il y a autre chose, c'est que il faut le savoir, juridiquement et à beaucoup d'égards dans la manière dont on la encadre au niveau de la sécurité, ces moments de panthéonisation ne sont pas des moments politiques. C'est-à-dire que normalement les familles politiques n'y sont pas représentées comme au sein de l'Assemblée nationale ou au sein d'autres cénacles où, pour le coup, on débat. Ici, c'est vraiment ce qu'on appelle l'unité nationale. On est censé être complètement neutre au niveau des couleurs politiques. Donc, à chaque fois, reposer la question, et ça avait été un peu la même chose pour la marche post-octobre, justement, sur la question du conflit israélo-palestinien.
Marche contre l'antisémitisme.
Si on dépolitise, poser la question du RN, eh bien, ça repolitise la question. Et donc, c'est toujours des moments où chacun y perd, c'est-à-dire ceux qui posent la question comme excluant le RN et le RN en acceptant ou en refusant.
On se pose la question de sa présence, etc., mais on se pose moins la question, comme vous venez de le faire à juste titre, de la cohérence du logiciel historique, politique de Marine Le Pen. On se souvient qu'elle avait fait une grande tribune d'hommage au général de Gaulle. Là aussi, ça avait fait quand même tout sauter certains quand on connaît l'image du parti et l'histoire du parti et du Front National qui s'est construit contre le gaullisme. Tout ça ne pèse pas, au fond, Jérôme Javré, ne pèse plus. La cohérence d'un parti politique par rapport à son histoire, par rapport à notre histoire.
C'est un débat absolument fondamental parce que ça renvoie non seulement à l'arc républicain, bien sûr, on va en parler, oui, mais au fait de qualifier le Rassemblement national de parti d'extrême droite. C'est ça qui est derrière comme débat fondamental. Le vocabulaire est essentiel pour la politique, il est essentiel pour définir un adversaire. Et si vous qualifiez le Rassemblement national de parti d'extrême droite, c'est là-dessus que le Rassemblement national...
Sur son histoire ?
Oui, sur son histoire et ce qu'il est éventuellement aujourd'hui encore. Et c'est là-dessus, si vous voulez, que le Rassemblement national, Marine Le Pen ou Jordan Bardella disent « on va poursuivre en justice les journalistes qui nous qualifient ».
Oui, ils ne le disent plus. Hein.
Alors, et ensuite, ils ne l'ont pas vraiment fait. Non. Mais c'est une façon de dire « arrêtez de nous qualifier de cette façon-là ». Parce que quand on regarde, par exemple, les sondages d'opinion, nous en parlions avec Bruno jeudi, il y a moins de 10% des Français qui se classent à l'extrême droite. Vous n'êtes pas élu président de la République dans ce pays. Mmh. Ce qui suppose plus de 50% des Français qui votent pour vous au second tour, si vous vous êtes qualifié d'extrême droite et par le jeu. Donc, alors la recherche de la cohérence là-dedans, c'est le cadet des soucis de Marine Le Pen, si je puis dire.
Ah bon ?
Oui, ça n'est pas son problème. Tout simplement d'abord parce que il faut bien dire que ça renvoie à des générations dont la demande de cohérence aujourd'hui, les jeunes générations, est moins grande. C'est le passé historique, la Seconde Guerre mondiale, oui, tout ça.
Mais il faut qu'elle parle aux aînés, à ceux qui ne votent pas aujourd'hui pour elle et qui ont peut-être ce souci de la cohérence. Alors, et de l'histoire, non ?
Espérons-le.
Je ne sais pas.
Espérons-le, mais ceux-là sont priés de se contenter des évolutions du parti sans explication de texte interminable, car elle dit au fond, c'est mon attitude qui montre l'évolution du parti, je n'ai pas besoin d'écrire les grands textes que vous réclamez pour la justifier. C'est ça l'explication, mais la bataille fondamentale, c'est de savoir comment on qualifie le parti, et donc c'est le débat aussi de l'arc républicain.
Et ça, on va en parler dans un instant. C'est le cadet de ses soucis. On a l'impression qu'elle traîne ça comme un boulet, l'histoire de son parti. Depuis qu'elle pense qu'elle est aux portes du pouvoir, Marine Le Pen, elle en veut toujours à tous ceux qui la renvoient aux amitiés de son père, aux mauvais mots de son père. Est-ce qu'elle a le souci à un moment donné de clarifier ou est-ce qu'elle pense que ça passera par perte de profit dans
d'abord, d'abord, elle a fait un acte important dans l'histoire récente du parti, c'est qu'elle a quand même exclu son père. Ça a été un moment assez compliqué. Il y a eu cette surenchère verbale de la part de Jean-Marie Le Pen. Ça s'est terminé, évidemment, dans des affaires même de justice. Et au fond, depuis, elle estime qu'elle a tourné la page du père, avec qui elle s'est quand même rabibochée en tant que fille, mais politiquement, elle a acté la rupture. Et maintenant, la page est tournée pour elle ne veut pas y revenir. On sent bien qu'elle ne veut pas y revenir. Est-ce que c'est définitif ou est-ce qu'au fond, à un moment, d'ici la prochaine présidentielle, elle ne sera pas obligée de le faire d'une manière ou d'une autre ? Elle, pour l'instant, elle ne s'en soucie pas, je suis assez d'accord. En plus, c'est quelqu'un qui joue pour elle et qui permet, j'allais dire, de faire oublier le passé du Front National, c'est Jordan Bardella. Franchement, ouais. Jordan Bardella, les 1 million de personnes ou quelques qui, sur ouais. TikTok, suivent ses déplacements et ses selfies, ils se demandent pas l'histoire du parti. Ils ont oublié. Alors là, ça n'existe même pas. Ce qui, d'ailleurs, au passage, pose beaucoup de questions sur le rapport à la politique.
Il avait même dit que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite.
Bien sûr, et évidemment, c'est un des rares petits gaffes qu'a dû faire Jordan Bardella ces derniers temps. Mais Jordan Bardella a aidé à blanchir tout ce passé.
On va y revenir sur tous ces points que vous avez soulevés en ce début d'émission. En tout cas, c'est une présence qui ne crispe pas uniquement les historiens. Marine Le Pen se rendra donc aux cérémonies de panthéonisation de Missak Manouchian et du groupe de l'affiche rouge résistant communiste étranger fusillé en 1944. Le parti héritier du FN, construit en 1972 par d'anciens vichistes, sera donc aux premières loges de cette cérémonie. Marine Le Pen s'indigne qu'on s'en étonne et assume. Léa Demirjian, Mathieu Lignot et Stéphane Lopez.
Une veillée hier soir au Mont Valérien, là où il fut fusillé il y a 80 ans. Hommage à Missak Manouchian. Missak l'apatride, l'étranger arménien, le résistant communiste va entrer au Panthéon avec son épouse Mélinée. Une autre cérémonie où le président de la République a invité les représentants de tous les bords politiques, sauf qu'il aimerait bien que certains déclinent.
Les forces d'extrême droite seraient bien inspirées de ne pas être présentes compte tenu de la nature du combat de Manouchian.
Renvoyée à son passé, Marine Le Pen ira quand même. Et Jordan Bardella joue la carte de l'indignation.
À chaque fois que la République nous convoque, nous répondons à son appel. Et le Rassemblement National sera présent à cet hommage. Nous sommes favorables à cette panthéonisation. Et encore une fois, le président de la République n'a pas à trier qui sont selon lui les bons ou les mauvais élus de la République française.
Les communistes, eux, dénoncent une présence inacceptable.
Le Front National est le pire ennemi des étrangers et des communistes. Donc participer à cet hommage, il y a quelque chose qui est incompréhensible politiquement. Et il y a une partie de l'extrême droite et de la droite extrême qui n'a pas fait son travail de critique par rapport à ce qu'est son histoire et sa filiation directe avec la collaboration.
Alors le RN est-il un parti comme les autres ? Marine Le Pen a-t-elle soldé l'héritage du Front National de son père, Jean-Marie Le Pen ? La question agite la classe politique et divise même au sommet de l'État. Comme en mai dernier, lorsqu'Elisabeth Borne, alors première ministre, affichait clairement sa position.
Maintenant, le Rassemblement National y met les formes, mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse.
Héritier de Pétain ?
Oui, également héritier de Pétain.
Absolument. Marine Le Pen, pareil ?
Je pense qu'un changement de nom ne change pas les idées et les racines.
À l'époque, le recadrage est immédiat et il vient du président lui-même.
Le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des arguments moraux. On n'arrivera pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour elle que ce sont des fascistes.
Alors Emmanuel Macron aurait-il changé d'avis ? Il s'en défend.
Je n'ai jamais considéré que le RN ou Reconquête s'inscrivait dans l'arc républicain.
Mais là, c'est son nouveau Premier ministre que le président désavoue. Quelques jours plus tôt, Gabriel Attal affirmait :
certains disaient qu'il ne fallait travailler qu'avec l'arc républicain. Moi, je considère que l'arc républicain, c'est l'hémicycle.
Confusion sur l'arc républicain. Reste que Marine Le Pen est l'adversaire politique numéro un et que c'est elle que le Premier ministre vise chaque fois qu'il en a l'occasion. Comme ce matin, lorsqu'il était question d'agriculture.
Vous avez de l'autre côté le Rassemblement National qui dit tout et son contraire. Madame Le Pen n'était même pas dans l'hémicycle pour voter la loi Egalim. Ça montre manifestement qu'elle n'est pas très à l'aise sur ces questions-là et qu'elle a peur que ça se voit.
Selon une récente étude de la Fondation Jean Jaurès, 50% des Français considèrent que le RN est un parti xénophobe. Ils étaient 60% en 2015.
Alors nous avons beaucoup cette question ce soir. Être républicain, ça veut dire quoi? J'ai l'impression que tout le monde emploie le terme sans vraiment lui donner un sens. Jérôme Jaffré.
Écoutez, c'est effectivement la réaction certainement de beaucoup de nos téléspectateurs et de Français. L'usage de ce mot républicain dans tous les sens finit par lui faire perdre son importance. C'est ça qui est grave. Parce qu'être républicain, nous demande notre téléspectateur, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie être républicain? C'est pas seulement le respect du suffrage universel et de pas faire de coup d'État. Évidemment, de ce point de vue, personne ne considère que le Rassemblement national serait en situation de dire nous allons faire un coup d'État et nous ne respectons pas le suffrage universel. Mais ça va bien au-delà. C'est-à-dire que être républicain, c'est accepter le respect de la Constitution, quitte à la modifier sur certains points, mais c'est, et dans, en respectant les procédures, on est là donc dans un débat fondamental du respect des procédures, c'est respecter l'état de droit, c'est considérer que les principes républicains, les valeurs, peuvent être supérieures à toute autre dimension, c'est-à-dire l'égalité entre les êtres humains, ça pose le problème de la préférence nationale. Est-on républicain en défendant l'idée de la préférence nationale pour l'accès au logement et à l'emploi, en donnant la priorité aux Français, y compris sur les immigrés en situation régulière en France? C'est ce genre de débat qui doit avoir lieu, plutôt que de ces...
Immigrés en situation régulière, dites-vous, pour faire écho au débat sur l'immigration qu'on avait eu, où il y avait une...
Mais c'est le programme du Rassemblement national, tel qu'il a été encore présenté en 2022, qui donnait cette dimension. C'est ça le vrai débat. Pas de dire, de s'écharper, me semble-t-il, sur un mot républicain, qui du coup fait que... Aujourd'hui, plus personne n'y comprend rien.
Frédéric Saïs, on parlait de l'état de droit, la contestation par exemple, peut-être, pardonnez-moi, je vais me tourner vers la constitutionnaliste, quand je parle de l'état de droit, pardonnez-moi Anne-Charlène Vézina, mais effectivement, elle est pour vous cette question. Quand le Rassemblement national critique la décision du Conseil constitutionnel sur le texte immigration, est-ce que par exemple, là, on est dans un parti qui sort du pacte républicain?
Alors, encore une fois, ce terme de pacte républicain, d'arc républicain et de république, il est très connoté et c'est difficile de lui donner un sens par rapport à cette décision du Conseil constitutionnel. Mais ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'il y a dans le programme du RN, pour la juriste que je suis, beaucoup d'éléments qui sont aux frontières de notre état de droit, qui ne le respectent plus. C'est-à-dire que l'idée de remettre en cause la souveraineté des juges constitutionnels, des juges européens, de sortir de la plupart de nos pactes de garantie des droits humains ONU, européen des droits de l'homme, ça signifie quand même qu'on s'inscrit dans une démarche de renationalisation, on en parlait tout à l'heure, qui va très loin. Et au fond, je ne sais pas si on peut prétendre qu'on est républicain ou qu'en tout cas, historiquement, on a des attaches par rapport à ça, alors qu'on défend ce type de programme politique. Donc c'est vrai qu'il y a un paradoxe, en tout cas, à considérer qu'on peut considérer qu'il y a des coups d'État lorsque un juge constitutionnel rend une décision, mais... On a aujourd'hui beaucoup de remises en question du rôle des juges, du rôle des cours constitutionnels, même dans les partis de gouvernement. Donc ce qui est un peu alarmant, c'est qu'au fond, cet argument qui était auparavant celui du Rassemblement national, maintenant, tend à se généraliser. Je ne sais plus dans quel sondage je lisais encore, que beaucoup de Français seraient favorables à ce qu'on réduise le rôle du Conseil constitutionnel. Donc j'ai l'impression que cette sirène-là...
Ça n'est plus valable à partir du moment où certains membres des LR disent la même chose... Sur le Conseil
constitutionnel. L'argument généralise tellement qu'au fond, on ne peut même plus l'utiliser uniquement pour ce parti.
Frédéric Saïs, sur cet aspect-là, parce que c'est vrai qu'on va l'entendre. Le Front républicain aussi, avant chaque élection, il y a l'idée de faire barrage, qu'il faut un Front républicain pour faire barrage au Rassemblement national. On peut mettre un billet sur la table, on est à peu près sûr qu'on va en entendre parler pour la prochaine présidentielle. Est-ce que vous avez des éléments à apporter au débat pour éclairer les gens qui nous regardent et qui se disent « être républicain, ça veut dire quoi ? Pourquoi on priverait le Rassemblement national de ce qualificatif-là ?»
C'est vrai qu'on voit surgir régulièrement des nouvelles expressions comme ça qui montrent bien qu'on n'arrive pas à se mettre vraiment d'accord sur les choses dont on parlait. Arc républicain, c'est vrai qu'on le voit surgir partout depuis quelques mois. On parlait de cordon sanitaire à l'époque de Jacques Chirac, qui d'ailleurs, rappelez-vous, n'était pas allé débattre avec Jean-Marie Le Pen au nom de ce cordon sanitaire. On ne parle pas avec lui aujourd'hui. Ça ne fait plus débat le fait que la finale et le débat d'entre deux tours reçoivent Marine Le Pen. Ça a été le cas les deux dernières fois, évidemment. Donc il y a toute cette ambiguïté sur le mot arc républicain avec un Premier ministre et un président qui semblent dire des choses différentes. Il y a les mots et puis il y a les actes aussi. Légalement, c'est un parti autorisé. Quelquefois, il y a des parlementaires de gauche, notamment, qui ont dit « est-ce qu'il ne faudrait pas l'interdire ?» Dans les années 90, plus personne n'en parle aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, c'est un parti légal, c'est un parti reconnu par la République. Ils sont donc invités aux cérémonies. Et là aussi, ça va dans le sens de « c'est un parti de l'arc républicain ». En revanche, au moment de la loi sur l'immigration, l'exécutif dit « on ne prendra pas en compte les votes au Rassemblement national ». Sous-entendu, ces votes-là sont tout de même à mettre de l'autre côté du cordon sanitaire. Mais, et ça c'est vraiment le « en même temps » pour le coup, souvenez-vous qu'il y a deux vice-présidents à l'Assemblée nationale qui sont issus du Rassemblement national. Pourquoi ? Parce que le règlement de l'Assemblée veut qu'on partage, entre guillemets, les responsabilités entre tous les courants représentés au sein de la représentation nationale. Et donc, il y a régulièrement Sébastien Chenu, député RN, qui dirige les débats à l'Assemblée.
Donc, en fait, on est totalement perdu. L'ensemble de la classe politique cherche une ligne et n'en trouve pas. Au sommet de l'État, on cherche les mots. Entre le Premier ministre en quelques jours et le président de la République, on n'a pas la même version. Et parfois, les versions au sein, pour les mêmes personnes, changent au fil du temps, si on pense à Emmanuel Macron.
Alors c'est vrai que ça a été bien résumé dans votre reportage. Les positions zigzags d'Emmanuel Macron, souvent le président varie. Là, on en a eu un bel exemple. Hein. Il reprend de voler sa première ministre quand... alors peut-être qu'elle s'emballe un peu et que et son expression était mal dosée, évoquant un parti pétainiste. Et puis là, c'est Gabriel Attal qui se trouve pris en porte à faux parce que lors de son discours de politique générale, lui, il dit « mon arc républicain, c'est l'hémicycle », sous-entendu les partis représentés dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire du Rassemblement national à LFI. Et dans son interview à l'Humanité, le président, lui, considère que le Rassemblement national se pose la question s'il est dans l'arc républicain. Y compris aussi et les filles, au passage, puisque au passage, dans l'entretien, il dit, sur certains combats, il s'interroge sur l'esprit républicain de...
Certaines personnalités
de LFI.
Combattent les valeurs de la République. Même si je ne pose pas d'équivalence entre les deux.
Voilà, bon enfin bon, il pose en plus cette nuance supplémentaire. Moi, j'ai trouvé que sur ce passage-là, Emmanuel Macron faisait beaucoup de politique. On est à 110 ou 115 jours des élections européennes. Il polarise au maximum. Il cadre le débat Rassemblement national, majorité, enfin, liste Renaissance. Et donc, on voit bien là qu'il faisait de la politique avec de la grosse ficelle, quitte à mettre un peu en porte-à-faux son Premier ministre. Je suis pas sûr qu'il a été si gêné que ça, Gabriel Attal, au passage, puisque lui-même a emboîté le pas en cartonnant Bardella et Le Pen.
C'est pas très lisible, Bruno Joly, malgré tout.
Non, mais c'est pas très lisible parce qu'ils sont dans le combat politique. Là, ils sont dans le combat, politique.
Oui, mais avec quel argument, du coup ?
Je crois
que c'est un parti comme les autres ou c'est pas un parti comme les autres ?
Il y a un effacement du Front républicain et de la fameuse notion d'arc républicain. Je rappelle quand même qu'aux dernières élections législatives, 89 députés du Rassemblement national ont été élus et ils ont souvent franchi la barre des 50% au second tour.
Et on va le voir que les sondages sont très favorables pour les européennes, pour le Rassemblement national. Et encore cette question, n'est-il pas scandaleux de douter de l'esprit républicain des millions de Français qui votent pour le RN ? Il y a aussi cette idée-là, et je posais la question de manière assez simple, mais peut-être simpliste, parti comme les autres ou pas parti comme les autres. On a l'impression que invité aux rencontres de Saint-Denis, mais pas aux hommages au Panthéon, et que cette absence de clarté nuit au débat politique.
Vous avez raison, c'est pas clair, et c'est pas clair parce que les mots ne sont pas justes. Ah. Le parti, le Rassemblement national, s'inscrit dans les institutions et dans le fonctionnement des institutions actuelles de la Ve République, parce que, comme vient de le rappeler Bruno jeudi, il a un groupe puissant au Parlement, il représente beaucoup d'électeurs, et dans les intentions de vote même, c'est un parti qui peut accéder au pouvoir. Donc, c'est pas par rapport aux républicains par républicains que les choses devraient se poser. Ce qui veut dire, c'est pas un parti comme les autres, parce que son arrivée au pouvoir serait un danger pour le pays. Ce serait beaucoup plus clair de dire les choses comme ça, parce que la mise en œuvre de son programme serait contraire aux valeurs de la République, ça ce serait beaucoup plus clair, il mettrait en danger...
Contraire, pardon, je suis sûr qu'il y a des gens qui vous regardent et qui vous écoutent, qui disent, bah tiens,
En quoi le programme du RN est contraire aux valeurs de la République ?
Ben Anne-Charlène Bézina vient de l'expliquer il y a un instant. C'est que, par exemple, le non-respect de l'état de droit, la mise en cause du Conseil constitutionnel, qui est l'instance qui juge du respect de la Constitution par le Parlement dans le vote de la loi. C'est ça qui est en jeu. Et ça, ce n'est pas des petites choses, si vous voulez, parce qu'il arrive que des parlements votent des textes non démocratiques. Mmh. Si vous n'avez pas une instance qui contrôle ce genre de choses, donc ça, c'est un débat absolument fondamental. Mais ce qui manque de clarté, en gros, c'est quand même de dire, il y a des alliés possibles et il y a des alliés qui sont interdits. En gros, ce que dit Emmanuel Macron, c'est qu'on peut voter des textes à l'Assemblée avec les Républicains, avec les socialistes, avec les écologistes, en regrettant que les socialistes et les écologistes ne jouent jamais le jeu de voter des textes avec le gouvernement.
Mais sur les textes importants, il dit pas de vote.
Mais voilà, je ne veux pas sa précision fondamentale qui corrige Gabriel Attal. Car le problème de Gabriel Attal en disant l'arc républicain, c'est l'hémicycle, c'est de laisser entendre qu'une loi importante qui serait votée à la fois par Renaissance, en les macronistes, et le RN, serait une bonne loi. Non, Macron dit, si c'est un texte important qui est voté grâce aux voix du Rassemblement national, ça, ce n'est pas acceptable. Donc là, il corrige Gabriel Attal.
Est-ce que c'est audible ? Tout ce qu'on est en train de dire, pardon, est-ce que c'est audible, à votre avis, pour des gens...
Apparemment, vous ne considérez pas du tout.
Non, mais est-ce que c'est audible pour des gens qui, à un moment donné, se disent... on n'a pas tout essayé. Le Rassemblement national, au fond, vous dites ce sera le chaos, mais on n'en sait rien parce qu'il...
Pas dit ça, j'ai dit. Non, mais j'ai dit qu'on pouvait le penser.
Voilà. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à cette France des oubliés qui considère qu'il y a un sentiment de déclassement, qui les enjeux démocratiques qui sont posés là sont-ils des arguments de campagne ? Peuvent-ils être défendus, par exemple, par la majorité pour faire campagne pour les européennes ? Est-ce que c'est audible dans un débat ?
Ce qui est compliqué, c'est qu'en plus, un point qu'on n'a pas évoqué, mais c'est que le Rassemblement national a fait des efforts surhumains pour se normaliser. Et il y a vraiment la politique pas de vague. On le sent au Rassemblement national, c'est vous ne faites surtout pas de polémique, vous tenez tous bien à l'Assemblée, vous êtes tous, on a beaucoup parlé des cravates du Rassemblement national. Le fait de ne pas être allé à l'hommage à Robert Badinter, c'était aussi sur cette polémique. On va pas faire de polémique, très bien, voilà, on est comme ça. Il y a quelques jours, souvenez-vous, il y a eu une polémique sur le fait que le Rassemblement national, très proche du parti allemand AfD,
on va en parler,
d'extrême droite, voilà, je ne vais pas trop... Mais ils ont tout de suite dit, ce parti-là s'en souffre, on ne s'associe pas à ces idées de rémigration, etc. On a appris que, d'ailleurs, Jordan Bardella et Marine Le Pen avaient déjeuné hier avec la...
Et ça, on va y revenir, parce que ça pèse dans les enjeux pour les Européennes.
Sur la normalisation
d'images. Je peux vous montrer des images, puisqu'on parle de normalisation, de dédiabolisation, on n'en est même plus là maintenant, c'est normalisation. Ces images de Jordan Bardella qui a reçu des mains du commandant Jean-Marc Cortès la médaille des CRS 6 de Saint-Laurent-du-Var. Regardez ces images.
Merci beaucoup, c'est un honneur pour moi.
On va être jaloux.
Vous l'avez ou pas ?
Non.
Il faut bien que j'ai quelques avantages.
Si on regarde moins ce qui est très près que ce qui est loin.
Merci beaucoup. Bon, merci à vous.
Dans le costume, décoré par les forces de l'ordre. Alors, on peut préciser que Gérald Darmanin a demandé une enquête administrative.
Oui, au nom justement de la proximité de la période électorale et que, effectivement, mais c'est vrai que ça doit rendre fou Gérald Darmanin et la majorité de voir Jordan Bardella faire la tournée des casernes de CRS et des forces de sécurité. On voit bien à quel point on a dépassé largement le mot dédiabolisation, le mot normalisation. Je dirais même on est dans la banalisation. On a progressé extrêmement vite ces dernières années, au fur et à mesure d'ailleurs que le Rassemblement national a cru dans les sondages d'abord, puis dans les urnes, jusqu'à avoir 88 députés aujourd'hui qui siègent à l'Assemblée nationale. C'est le premier groupe d'opposition, faut-il le rappeler. Après, il y a quand même des choses qui les rattrapent. Il y a ce qu'ils font dans les hémicycles au Parlement européen.
Et ben justement, on peut en parler. Vous voulez, je fais un méga teasing sur le Parlement européen. Oui, c'est possible. Non, vous parlez de banalisation, de diabolisation, et puis maintenant banalisation. Il y a un label que que cherche encore le Rassemblement national depuis des années, c'est celui de la crédibilité et de la respectabilité. Et la prise de ce week-end marque peut-être une nouvelle étape dans cette lente marche, puisque l'ancien patron de l'agence européenne Frontex rejoint le Rassemblement national. Fabrice Leggeri est énarque, il sera numéro 3 sur la liste de Jordan Bardella pour les élections européennes du mois de juin. Anne Maquignon et Nicolas Bidrard.
C'est un coup politique qui a fait parler tout le week-end.
Et c'est un nom qu'on a beaucoup entendu ce week-end, Fabrice Leggeri.
Fabrice Leggeri, l'ancien patron de Frontex.
L'agence qui surveille les frontières européennes sera numéro 3 sur la liste de Jordan Bardella.
Une nouvelle prise pour le RN, le débauchage d'un haut fonctionnaire à 3 mois et demi des élections européennes.
Je choisis le Rassemblement national sur la liste de Jordan Bardella parce que pendant plusieurs années, j'ai été au cœur des institutions de l'Union européenne et j'ai pu mesurer l'urgence qu'il y a à agir contre l'immigration illégale. Or, le Rassemblement national est le parti qui a la lucidité de faire le vrai constat, qui a le courage, la volonté de mettre en œuvre les propositions, et c'est le parti en France, le Rassemblement national, qui aura la capacité de gouverner.
Le soutien d'un expert, l'incarnation d'une normalisation longtemps souhaitée par le parti d'extrême droite. Mauvaise nouvelle pour le reste de l'échiquier politique, vite forcé de réagir.
En 2019, au moment des élections européennes, Jordan Bardella déclarait que Frontex était une agence d'accueil pour migrants. Il critiquait avec Marine Le Pen Frontex comme nounou des migrants qui arrivaient en Europe.
Moi, si j'étais Jordan Bardella, je ne serais absolument pas fière de mettre en avant ce personnage qui a la mort de milliers de personnes sur les mains.
Mais pour Jordan Bardella, c'est une aubaine. Il assure même devant les caméras que d'autres personnalités devraient suivre.
Il y aura d'autres ralliements qui viendront rejoindre cette liste qui, je l'espère, arrivera en tête le soir du 9 juin prochain. Pas seulement pour faire des coups politiques, mais parce qu'on construit aussi une crédibilité, un rassemblement et les conditions demain de l'exercice concret du pouvoir.
Jordan Bardella sur tous les fronts, d'autant que sa patronne, pour mieux prendre de la hauteur, le laisse prendre la lumière. Quand le Premier ministre invite Marine Le Pen à débattre, elle répond illico.
Le Premier ministre cherche à brûler les étapes, mais en pleine campagne européenne, l'arme anti-Bardella devrait surtout accepter le débat que lui a proposé notre tête de liste et président du Rassemblement national, Jordan Bardella.
Pour les européennes, la star du Rassemblement national, c'est donc lui. Et pour ne pas perdre sa longueur d'avance dans les sondages, Jordan Bardella saisit toutes les crises.
Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Aux côtés des agriculteurs.
De la Guidaine.
Ouais.
Bazadez.
Ouais.
Et
Aubrac.
Et toujours entouré par une horde de journalistes, le candidat RN cherche à s'imposer comme le défenseur du monde agricole.
Je pense qu'il y a un mouvement de colère qui est en train de se lever aujourd'hui partout en Europe. Et le point commun de ce mouvement de colère, c'est l'Union européenne et l'Europe de Macron, qui veut la mort de notre agriculture, qui ne cesse de la mettre en concurrence avec des produits agricoles qui viennent du bout du monde, qui ne respectent aucune des normes toujours plus dures et toujours plus lourdes qu'on impose aux agriculteurs français.
Elle aussi a bien essayé de draguer les agriculteurs à Bruxelles.
Voilà, vous avez raison, mobilisez-vous, allez sur le terrain, bloquez, faites entendre votre voix.
Marion Maréchal est la candidate du parti Reconquête, la nièce Le Pen, l'atout d'Éric Zemmour, pour voler des électeurs au Rassemblement national.
Il n'y a pas de course. Moi, j'ai des convictions qui ne sont pas toujours celles du Rassemblement national. Moi, je crois qu'il y a une guerre de civilisation sur notre sol. Marine Le Pen ne le croit pas. Je crois que l'islam n'est pas compatible avec la République. Marine Le Pen ne le croit pas. Donc, vous voyez, nous avons des désaccords. Donc, c'est normal qu'il y ait deux listes. Les gens choisiront.
Et pour l'instant, les électeurs semblent avoir choisi. Marion Maréchal ne récolterait que 8% des intentions de vote. Loin, très loin de son concurrent du RN. 19 points devant.
Oui, puisqu'on peut compléter ce sondage qui a été donné par Eurotrack Opinion Way dans Les Échos. 27% pour le RN, majorité présidentielle à 19%, PS à 10%. Alors on est loin du scrutin, hein, mais bon. Europe Écologie Les Verts à 8%, LR Reconquête à 8%. Effectivement, avec une large avance du Rassemblement National et donc de Jordan Bardella. Donc banalisation, normalisation et crédibilité. Si on revient au début du reportage, avec cette nouvelle recrue, un énarque. Alors il paraît qu'à un moment donné, c'était plus une qualité d'être énarque au Rassemblement national. Ça reste une qualité visible.
Ah, c'est plus qu'une qualité au Rassemblement national. C'est vraiment dans la vitrine. C'est ce qu'ils pouvaient trouver de mieux pour lancer leur campagne. Ils ont l'énarque normalien, 30 ans de haute fonction publique. Ils dirigeaient Frontex il y a encore peu de temps. Et il a décidé de franchir le pas et de faire mener combat contre Ursula von der Leyen, a-t-il dit dans sa première interview. Il ne pouvait pas espérer mieux comme numéro 3 de liste. Au passage, Jordan Bardella, en 2019, lorsqu'il était déjà tête de liste pour le Rassemblement national, critiquait l'agence Frontex comme une agence de voyage pour migrants. C'était ce monsieur qui la dirigeait. Donc ils sont capables aussi de faire en toupie, de faire des 180 degrés sur leur prise de position. Bon, alors après, c'est vrai que M. Légéry explique qu'il a complètement... il s'est opposé totalement à la politique de Mme von der Leyen. Donc, c'est un lancement idéal pour le Rassemblement national qui fait figure de favori dans cette élection. Alors bon, on sait aussi que le Rassemblement national peut se tasser souvent très haut dans les débuts de campagne, il baisse en cours de campagne. Oui. Mais là, on voit que la remontada espérée par la majorité Emmanuel Macron en tête se présente quand même de manière beaucoup plus périlleuse que celle de 2019. En 2019, en plein gilet jaune, ils avaient réussi à remonter la liste RN et finir à touche-touche. Cette fois-ci, là, le contexte est totalement différent. L'usure du pouvoir, pas de tête de liste encore aujourd'hui.
Mais toujours pas.
Toujours pas de tête de liste aujourd'hui. Le contexte de la crise agricole qui n'aide pas. Et Jordan Bardella et Marine Le Pen qui sont davantage encore installés dans une position plus que jamais normalisée.
Mm-hmm. Jérôme Jaffré, sur la crédibilité, on évoquait la normalisation, la banalisation. Marine Le Pen est-elle une invitée comme les autres à la panthéonisation de Missak Manouchian? Est-ce un parti comme les autres sur la scène internationale et sur la scène européenne?
Alors,
et sur la crédibilité, est-ce qu'il y a toujours un doute quand même sur avec qui allez-vous gouverner, qui sont les gens que vous allez mettre dans votre gouvernement?
D'abord, c'est les élections européennes qui sont le grand rendez-vous, pas encore la présidentielle. Or, sur les élections européennes, ce que d'abord je constate, c'est que le Rassemblement national a gagné les deux élections européennes précédentes, de 2014 et de 2019, qu'il les a gagnées en 2014 très largement, en 2019 de très peu, et c'est vrai, et qu'il a perdu les deux présidentielles suivantes, de 2017 et de 2022. Il n'y a donc pas de lien entre le résultat des élections européennes. L'élection européenne, c'est le seul scrutin à la proportionnelle dans notre pays. Il n'a qu'un tour à la proportionnelle. Il n'y a pas de second tour. Il n'y a pas à chercher des alliés pour avoir des voix, des reports de voix au second tour. Donc, si vous mobilisez votre camp, vous êtes porté. Ce qui est vrai, le risque, c'est ce que vient de dire Bruno jeudi, c'est plutôt le déclassement de la majorité macroniste. D'accord. Très distancé par le Rassemblement national. C'est ça l'événement qu'il faut surveiller pour le 9 juin. Maintenant, sur le plan international, au Parlement européen, le Rassemblement national ne sert strictement à rien. C'est-à-dire qu'il est dans un groupe politique qui ne pèse absolument pas dans les débats, qui ne compte pas. Et le risque du Rassemblement national, c'est que rien ne change. Et ensuite, il y a son allié, qui est l'allié, c'est l'extrême droite allemande, l'AFD, l'alternative pour une autre Allemagne. L'alternative pour une autre Allemagne, c'est un vrai parti d'extrême droite. Si le Rassemblement national cherche à se banaliser, c'est pas du tout le cas de l'AFD, qui a participé à des réunions pour la remigration, vous entendez bien, renvoyer d'Allemagne des gens qui sont soit des immigrés, soit des Allemands de fraîche date. En France, la dénationalisation, ça a été sous Vichy, pour les Juifs qui étaient devenus naturalisés entre 1927 et 1940. C'est dire ce que ça signifie. Il y aurait 2 millions d'Allemands dans ce plan, alors que l'AFD maintenant prend un peu ses distances. Mais enfin, elle a participé à une réunion pour venir dire on pourrait faire la remigration. Madame Le Pen dit,
un concept de la remigration qui est développé par Éric Zemmour.
Voilà, et que Madame Le Pen jusqu'à présent
n'avait pas
totalement, et il faut reconnaître qu'elle a d'ailleurs pris totalement ses distances. Le problème, c'est que le Rassemblement national siège dans le même groupe au Parlement européen que l'AFD. Et donc ça, à mon avis, ça va être le point d'attaque majeur contre le Rassemblement national, pendant la campagne des européennes, puisque vous êtes avec l'AFD,
c'est
donc que vous partagez les
idées de l'AFD. Il s'appelle le groupe Identité et Démocratie, ce groupe-là, le groupe ID. Et puisqu'on parlait de l'AFD et de la proximité entre l'AFD et le parti de Marine Le Pen, cette phrase de la coprésidente du parti allemand d'extrême droite, qui dit « J'ai échangé aujourd'hui avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, nous adoptons les mêmes approches pour résoudre les grands problèmes actuels. » Ça ne s'appelle pas une prise de distance. Ça veut dire qu'il y a des proximités vraiment sur le fond entre ces deux partis-là, beaucoup plus qu'avec Giorgia Meloni d'ailleurs en Italie. Hein.
Des proximités dont le RN a honte, puisque c'est justement ça. Ce fameux déjeuner qui a eu lieu hier entre la dirigeante de l'AFD allemand et Jordan Bardella et Marine Le Pen, on l'a appris, on en a appris l'existence justement par un post sur les réseaux sociaux de la dite dirigeante allemande. Côté français,
rien.
Pas un communiqué, pas un tweet, et il a fallu insister pour obtenir confirmation factuelle que ça avait bien eu lieu, mais pas plus de commentaires. Donc évidemment, ils savent, comme le disait Jérôme Jaffray, que ça va leur être opposé dans la campagne.
Parce que c'est des partis dans lesquels il y a des néo-nazis. Hein.
Oui, exactement, oui. Et puis, comme le disait là aussi Jérôme Jaffray, c'est vraiment l'extrême droite dans ce qu'elle a de plus radical et peut-être de plus honnête, pour le coup. C'est-à-dire, voilà ce qu'on est, nous, dit l'AFD, voilà ce qu'on veut faire. Là où le Rassemblement National, évidemment, ne parle pas de choses comme ça, même si, évidemment, la frange la plus radicale est peut-être plus cachée.
C'est ce que vous pensez, Frédéric Saïd, c'est-à-dire qu'il y aurait la vitrine du discours banalisé, acceptable pour certains, porté par Jordan Bardella et par Marine Le Pen, et puis il y aurait ce projet peut-être partagé avec un parti comme l'AFD, qui est un projet aujourd'hui qui est tu par le Rassemblement National. Vous le pensez ?
Bien sûr. Pour gagner l'élection présidentielle, on le sait, il faut faire 50% des voix plus une. Et tous les partis qui veulent remporter un deuxième tour d'élection présidentielle ont tendance à se montrer non seulement sous leur meilleur jour, mais à se centriser par définition. Songez même à gauche, à François Hollande en 2012, qui dit « voilà, je ne suis pas révolutionnaire, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de révolution ».
Personne ne le croyait, remarquez.
Voilà, cela dit, c'est vrai. Donc oui, ça existe. Mais pour revenir à M. Légéry, ce qui est intéressant, c'est que alors, les européennes sont toujours l'occasion de faire monter des gens de la société civile, comme on dit, pour envoyer des messages. C'était le cas chez LFI avec Manon Aubry, directrice d'ONG, qui est arrivée en tête de liste. C'était le cas avec Édouard Martin au PS, qui était un ancien ouvrier d'ArcelorMittal, qui était là donc pour incarner le travail. Ça a été le cas également, c'est le cas de Céline Himard, numéro 2 chez LR, qui est une agricultrice. Et on voit bien le message là aussi qui est envoyé vis-à-vis de l'actualité. Et donc là, il y a trois messages. C'est Frontex, ce sont des patrouilles, etc. On voit bien l'imaginaire que ça renvoie. C'est un énarque. Et par ailleurs, il faut dire quand même son âge. Il a 55 ans. C'est quelqu'un qui n'était pas hors du jeu professionnel, qui n'était pas... voilà. Et qui donc s'embarque sur le navire RN pour preuve de son attractivité, y compris avec ce qu'on appelait jadis, dans ce parti, le système.
Les élites.
Les élites.
Hein, dénoncées par le Rassemblement National en d'autres temps. Anne-Charlène Bézina.
Oui. Déjà, je pense qu'en fait, on peut relier ce qu'on dit là à ce que nous disions auparavant. C'est-à-dire que si le RN... n'est pas nécessairement dans l'arc républicain. En tout cas, c'est un parti qui fait partie de notre démocratie. C'est un terme qu'on a très peu utilisé. Mais la démocratie, c'est discuter avec tout le monde. Et précisément, la proportionnelle installée à l'Assemblée nationale en 86 fait rentrer pour la première fois les députés Front National à l'époque au sein de notre Assemblée. D'autres partis comme le Modem avaient, par exemple, l'idée de faire des réformes pour que la proportionnelle soit installée à l'Assemblée nationale pour discuter les yeux dans les yeux avec, justement, ces députés Rassemblement National. Donc, discuter avec ne signifie pas nécessairement crédibiliser, normaliser, etc., mais tout simplement faire vivre le jeu de la démocratie. C'est encore, à mon avis, un petit peu différent. Et je vous rejoins sur le scrutin des européennes, qui est un scrutin à tous les niveaux totalement exceptionnel. Parce qu'il n'est pas tellement teinté d'enjeux nationaux, et parce que, malheureusement pour l'Europe, c'est vraiment le scrutin qui cristallise le plus les arguments anti-européens. C'est pendant les européennes qu'on entend le plus de mal de l'Union européenne. C'est vraiment très mal goupillé, mais c'est comme ça. Et on peut le dire, les partis nationalistes sont loin d'être uniquement français et allemands. On en a en Autriche.
Carte, là, regardez, il y a 9 pays européens où les listes populistes sont en tête. Et ils sont deuxième ou troisième dans un autre groupe de pays. Quand on regarde cette carte-là, on voit qu'il y a une dynamique européenne de ces pays.
Une dynamique européenne de ces pays, et une dynamique qui est assez intéressante, qui consiste à se prétendre partie anti-système, qui veulent entrer dans le système pour changer le système. Et donc, c'est ça qui est à l'œuvre, à mon avis, dans le Rassemblement national. Et je pense que ça peut être payant pour la présidentielle, parce que cette idée d'être anti-Europe, eh bien, finalement, c'est quelque chose qui est porteur dans l'opinion publique, étant donné que l'Union européenne, elle est porteuse de tous les maux sur la question de l'immigration, par exemple. C'est elle qui est stigmatisée depuis 2015, Frontex, par exemple, et l'agence qui a le plus stigmatisé cette question du, finalement, de l'impuissance de l'Union européenne. Et donc, l'idée qu'on recrute M. Leggeri auprès des Rassemblements nationaux, c'est, il faut le savoir aussi, c'est quand même quelqu'un qui était anti-système dans le système, M. Leggeri. Il y a une enquête administrative qui est ouverte contre lui, parce que c'est un feuilleton, en réalité, sa candidature. C'est quelqu'un qui rejetait la politique qui était appliquée au moment où il était à la tête de
ça. On lui reproche même d'avoir fermé les yeux sur ce qu'on appelle des pushbacks, c'est-à-dire de rejeter, c'est ça, hein,
certains
de contrôle. Hein,
la frontière gréco-turque.
C'est ça.
Exactement. Donc, voilà, ça n'est pas une prise anecdotique, mais ça n'est pas une prise neutre politiquement non plus. Et ça prouve finalement que le discours anti-européen a beaucoup de poids en France, et peut-être que ça pèsera aussi sur les présidentielles.
En fait,
il serait temps de clarifier, en tout cas, le débat. Et je pense que c'est le rôle de la Macronie d'arriver à remettre l'église au milieu du village. Et il est temps de choisir une tête de liste pour faire face, pour remettre les questions européennes au cœur du débat.
Oui. Le recrutement de M. Leggeri montre en tous les cas quelque chose. C'est l'attractivité de Jordan Bardella, l'attractivité du Rassemblement national.
Et l'attractivité des sondages.
Et l'attractivité des sondages.
Quand vous êtes à 30%.
Mais ça fait des dégâts collatéraux. On voit bien la difficulté pour les Républicains à être attractifs parce que dans cette préparation des européennes, c'est très important. Les sondages lui permettent d'envisager 25-30 députés européens, là où les autres listes, puisque toutes les listes pratiquement sont en dessous de 10%, sauf les deux premières, elles sont potentiellement sous les 5 aussi. Donc du coup, pour Jordan Bardella, et sans doute qu'il va égrener les prises de guerre comme ça, parce qu'il va sans doute en avoir d'autres.
Hein.
Voilà, il va les égrener tout au long de ce début de campagne, comme des coups de poignard aussi qu'il envoie à ses autres adversaires. Et reconquête le parti d'Éric Zemmour, qui le relègue assez loin, les Républicains dont il veut essayer de prendre ce qui reste. Donc on voit aussi, c'est ça aussi qui joue en ce moment à travers la communication du Rassemblement.
Avec un projet qui est assumé de la part de Jordan Bardella pour les institutions européennes, c'est pas de changer l'Europe de l'intérieur, c'est tout simplement de mettre en place une minorité de blocage, c'est ce qu'il a dit, c'est-à-dire pouvoir bloquer le fonctionnement des institutions pour bloquer les textes qu'il ne souhaite pas voir passer. Il y a peut-être un autre élément qui risque de peser dans cette campagne des européennes, c'est la situation économique. Après l'inflation, la récession et la rigueur, c'est une question qui est posée, et c'est le chemin que prend l'économie européenne, puisque Bruno Le Maire a annoncé qu'il va devoir trouver pour la France 10 milliards d'euros d'économie. Pas facile quand l'activité ralentit. Sur le sujet, le Rassemblement national est aussi en embuscade, comme à Château-Thierry, où l'usine LU vient de fermer ses portes. Reportage Laura Rado et Stéphane Lopez.
Ce jour-là, à Château-Thierry, ils sont venus défendre ce qui est le cœur battant de la ville, leur usine presque centenaire.
Il y a café, croissant, pain au chocolat et s'il reste des chaussons aux pommes.
Eux, au quotidien, fabriquent les biscuits Pépito. Mais plus pour longtemps. L'usine LU doit fermer ses portes fin 2025. L'annonce fin janvier a fait l'effet d'un coup de massue.
On ne veut pas mourir en silence, justement. C'est pour ça que le message, c'est important qu'il soit passé par tous. Si, c'est la famille. Il n'y a pas d'autre mot, c'est la famille. Vous voyez, hein, tout le monde se connaît, tout le monde parle. Donc vraiment, c'est vraiment dur pour nous.
David Romeden, prêt pour un combat de longue haleine contre Mondelez. La multinationale américaine, pourtant bénéficiaire, souhaite relocaliser une partie de la production en République tchèque. 61 salariés, bientôt sur le carreau.
Sur Château, il n'y a pas de boulot. Il y a des boîtes qui payent correctement. Il n'y en a pas, quoi. Sur le bassin de Maine, ici, rien du tout, quoi.
Ouais, moi, je suis en train de faire construire. Voilà. C'est même pas espéré de vendre tout de suite. Hein. C'est...
Là, en ce moment ?
Oui,
ouais, ouais, je suis en plein dedans.
Plein dedans, les... ouais. Donc, vendre, je pourrais même pas rembourser mon crédit. Donc, je suis obligé de rester ici.
Des salariés en détresse et des politiques qui se pressent à leur chevet. En invité surprise, ce jour-là, Xavier Bertrand vient partager une merguez avec les grévistes et envoyer un message à la direction.
Le problème, c'est que c'est un groupe américain. Hein. C'est ce qu'ils font, les Américains.
C'est moins cher.
Quand on a affaire à un groupe qui a largement les moyens, qui a beaucoup de moyens, et qui prend une décision aussi brutale, ben ils assument leurs responsabilités. Et respecter les salariés, ça veut dire aussi faire le maximum. Un, pour qu'ils retrouvent un boulot. Deux, pour qu'ils obtiennent aussi, dans le cadre d'un PSE, le maximum.
Xavier Bertrand, qui ne veut pas laisser le champ libre au Rassemblement national. Le député du coin s'est déjà saisi du cas des salariés élus pour mener la charge contre le gouvernement quelques jours plus tôt à l'Assemblée nationale.
Les sites industriels ferment les uns après les autres sans que vous ne bougiez le petit doigt. Ma question est donc la suivante. Comment comptez-vous concrètement œuvrer pour sauver ces emplois ?
Pour le moment, pas de réponse concrète de l'État. Alors l'élu d'extrême droite occupe le terrain, participe aux réunions avec la direction, une présence appréciée jusque dans les rangs de la CFDT.
Et quand ils me disent qu'ils vont sauver l'emploi, qu'ils vont vous reclasser ailleurs, moi je veux bien, mais bon, il va falloir m'expliquer où, parce que sur le terrain...
Non, non, mais c'est bien, parce que vous, en plus vous les avez poussés dans leur retranchement, parce qu'ils ne savaient pas quoi lire, donc au final...
La délocalisation des biscuits, une nouvelle opportunité pour le député RN de s'en prendre à l'Europe.
On avance à marche forcée vers une Europe libérale, une Europe fédérale. Et on veut absolument nous couper complètement de ce qui a fait la France. Ce qui a fait la France, c'est les petites entreprises, c'est des industries qui ont grandi au cœur des territoires.
Mais le soutien du RN n'est pas toujours facile à assumer. David Romeden, lui, préfère ne pas être filmé avec l'élu d'extrême droite, même s'il reconnaît avoir besoin de lui.
Le discours qu'il a tenu à l'Assemblée, en tout cas, nous convenait complètement. C'était un bon discours. Moi, ce que je veux, c'est pas de récupération politique. Donc, ils sont présents, tant mieux. Ils nous soutiennent, tant mieux. Donc, moi, c'est ça le but, en fait. C'est d'avoir des soutiens politiques, des soutiens locaux. Voilà, c'est ce qu'on attend.
La fermeture de l'usine LU à Château-Thierry, une page de l'histoire qui pourrait se tourner dès cette année. Les premiers licenciements pourraient intervenir au mois d'octobre, selon les syndicats.
Et cette question qui nous est posée ce soir et qui fait écho à ce reportage qu'on vient de voir, est-ce la crise économique en Europe qui renforce la montée du populisme ?
Oui.
Non ?
Oui, d'abord, c'est une dimension, mais je vous laisse...
Vous avez le droit de ne pas être d'accord, allez-y, Jean-Marc Lafray.
Alors, ouais. À titre personnel, évidemment que ça ne fait pas du bien aux partis classiques quand vous avez une crise économique majeure. En revanche, moi, je pense que c'est vraiment sur la question de l'immigration que le Parti populiste de droite font la majorité de leurs gains électoraux. Et il suffit de constater sur quel sujet la droite conservatrice et l'extrême droite fusionnent, ou en tout cas se rapprochent dans beaucoup de pays européens. En France, c'est un peu moins le cas, même si Éric Ciotti fait un pas, Marine Le Pen... Mais vous prenez l'Espagne, Parti populaire, c'est l'équivalent de LR. En Espagne, il gouverne dans certaines régions avec Vox, extrême droite. En Suède, le gouvernement conservateur est soutenu par l'extrême droite, les démocrates de Suède. En Italie, Giorgia Meloni gouverne avec les héritiers de Berlusconi, donc droite plutôt libérale. Et donc vous avez en ce moment, un peu partout en Europe, ces fusions qui sont en train de s'opérer, pas du tout sur l'économie.
Sur l'immigration.
Ils ne sont pas spécialement toujours d'accord. Il y a des protectionnistes, il y a des libéraux entre la droite et l'extrême droite. Mais sur l'immigration, il y a très clairement des rapprochements qui offrent des dynamiques électorales.
Jean-Jacques.
Alors, l'immigration, oui, c'est vrai que c'est le ressort absolument majeur. Mais au-delà, il y a un climat. Et ce climat, si vous voulez, c'est de chercher des boucs émissaires et d'estimer que dans cette affaire, l'Europe complique la vie des gens. C'est un ressort absolument fondamental.
Y compris sur les questions environnementales, par exemple.
Ben voilà, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire, au fond, l'idée, c'est que le thème majeur des extrêmes droites, des populistes, c'est de défendre les modes de vie. C'est de considérer que, d'abord, la nation reste la référence essentielle contre l'idée européenne de dépasser les nations pour des objectifs absolument fondamentaux et des politiques communes. Donc c'est ça. Et de ce point de vue, si vous permettez, le gouvernement, en défendant la thèse de l'exception agricole française, donne énormément d'eau au moulin des thèses nationalistes. Parce que si vous expliquez quand un secteur est en crise qu'il faut demander l'exception par rapport à ce qu'est la politique de l'Union européenne, ça s'applique à plein de domaines. Et au fond, c'est l'idée, arrêtez de nous emmerder, selon la fameuse formule prêtée à Georges Pompidou, dont d'ailleurs je n'ai jamais trouvé, soit dit en passant, la trace dans les interventions de Georges Pompidou. Mais enfin, on lui prête ce mot. C'est ça l'idée, c'est-à-dire, au fond, et dans la crise agricole, c'est les normes, c'est ce qu'on nous impose. Et l'Europe sert de bouc émissaire à tout le monde. C'est parce que c'est l'Europe. Et les gouvernements se défaussent allègrement dans cette affaire. Donc c'est une dimension supplémentaire. Parce que le thème seul de l'immigration, il ne suffisait pas à permettre de porter le Rassemblement national vers 30% des voix.
Sur l'Europe, les agriculteurs en particulier savent ce que leur apporte la PAC. Et ils ont parfois des craintes vis-à-vis d'un vote RN, justement pour ces raisons-là. Hein.
On le voit d'ailleurs dans les organisations syndicales. Il y en a deux qui se détachent vraiment et qui considèrent et qui tentent de mettre à distance le Rassemblement national, la FNSEA et les jeunes agriculteurs contre la coordination rurale. On voit bien, fait de la surenchère, elle est travaillée à sa base par le Rassemblement national. Et on voit bien que d'ailleurs, le mouvement commence à beaucoup se politiser parce que franchement, Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont déjà mis beaucoup de choses sur la table et ça ne calme pas la colère parce que la colère, elle est aussi un peu instrumentalisée dans cette campagne européenne qui s'annonce et le Rassemblement national a bien compris qu'il y avait deux piliers.
Et elle s'exprimera.
L'immigration.
Oui.
Et l'écologie. L'écologie est un pilier assez important. En tous les cas, il faut juste observer les sondages. Le Rassemblement national est en dynamique forte depuis les émeutes urbaines de l'été dernier. On voit bien, ils étaient en gros moins de 30% avant les émeutes urbaines. Marine Le Pen a fait des progressions et Jordan Bardella très importantes en 6 mois. On voit bien que ce moment-là a cristallisé des choses dans la société française.
Et nous revenons maintenant à vos questions. Cette question d'Alain dans le Val-de-Marne. Qu'est-ce que l'arc républicain? Vous avez une minute.
J'ai une minute, j'aurais adoré avoir 5 heures. L'arc républicain, c'est un concept qui est manié depuis... Alors, on peut remonter au bonapartisme. On l'a beaucoup utilisé sous la Troisième République, où ça avait vraiment un sens, parce qu'on se posait la question de l'arc républicain, puisqu'on avait beaucoup de monarchistes. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un concept... typiquement, en droit, on appellerait ça la notion fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, mais on sait à quoi elle nous sert. Et c'est une notion d'exclusion. C'est-à-dire qu'on l'utilise pour faire des coalitions, pas forcément avec la personne à qui on oppose cet arc républicain précisément. Mais l'idée, c'est d'avoir l'arc, c'est l'hémicycle autour duquel on travaille sur les valeurs de la République. Donc, voilà, à géométrie variable, on l'a dit.
Et je renvoie aussi à votre intervention plus tôt, vous nous expliquez ce qu'était l'état de droit et la position du Rassemblement national sur ces sujets. Ne pas inclure le RN dans l'arc républicain, n'est-ce pas mépriser les Français qui ont voté pour ce parti? On l'a eu tout à l'heure, cette question. Marine Le Pen a-t-elle suffisamment mis les choses au clair par rapport à son père?
Non, moi je pense que à l'occasion de la panthéonisation de Missak Manouchian, elle pouvait aller plus loin. Elle ne l'a pas fait. Je pense que tôt ou tard, elle devra sans doute passer par là. Parce qu'au fond, même si, vous le disiez tout à l'heure, l'élection présidentielle, elle se fait aussi sur les catégories les plus âgées. Et là, elle a un déficit. Elle n'est pas encore en position de force sur ces segments électoraux, comme disent les sondeurs. Et là, je pense qu'à un moment ou autre, il va falloir rassurer. Elle ne l'a pas totalement fait.
Olivier Dans-l'Aine nous pose cette question. Pourquoi Marine Le Pen était-elle absente lors de l'hommage national rendu à Robert Badinter?
À la demande de la famille de la veuve Elisabeth Badinter, qui ne voulait pas de la présence de Marine Le Pen, des représentants du Rassemblement national.
Parce qu'elle considère sans doute, elle, qu'elle n'est pas dans l'arc républicain.
Absolument. Hein,
et parce que Jean-Marie Le Pen avait manifesté place Vendôme en 83 au cri de Badinter assassin. Ouais. Dans léger détail, qu'il ne faut peut-être pas oublier.
Bien sûr. En quoi les électeurs de Reconquête diffèrent-ils de ceux du Rassemblement national?
Ce que disent les enquêtes d'opinion, mais je parle sous le contrôle de Jérôme Jaffré, c'est que les électeurs d'Éric Zemmour sont plus aisés économiquement. CSP+, comme on dit, catégorie socio-professionnelle aisée, et plutôt plus âgés et plus diplômés.
Pourquoi ne pas dissoudre le RN si celui-ci n'est pas républicain? Vous nous le disiez tout à l'heure, ça avait fait partie des débats dans les années 80, des débats que plus personne ne pose aujourd'hui.
Oui, quand c'est un groupuscule, évidemment, vous pouvez vous poser la question sans qu'il n'y ait trop de conséquences politiques. Quand vous avez 30% des Français qui glissent un bulletin dans l'urne pour ce parti-là, ça revient à dire, vous, 30%, vous n'êtes pas républicain, c'est impossible politiquement.
Et en France, il n'y a pas de contrôle des partis politiques, et c'est heureux, c'est ce qui fait un peu la valeur de notre démocratie, l'article 4 de notre Constitution. Il n'y a pas de partis légaux autorisés et d'autres qui ne le sont pas. Alors certaines grandes démocraties, comme l'Allemagne, interdisent des partis, mais on peut comprendre avec les stigmates de son histoire que ce soit le cas. La France se refuse à ça, donc tout le monde a droit de citer, tout le monde peut organiser un parti politique. C'est la loi 1901, c'est n'importe quelle association.
Il y a certains groupuscules d'extrême droite et d'extrême gauche qui ont été dissous.
C'est pas tout à fait la même chose. Un groupuscule, c'est une loi de 36, c'est sur des questions presque de sécurité nationale. D'accord. Donc ça n'a pas la même.
Pourquoi alors ne pas exclure les communistes qui furent stalinistes à une certaine époque? Jean-Pierre dans la Manche.
La question de Jean-Pierre est intéressante. Autrefois, on parlait des staliniens. Ouais. Donc, c'est les staninistes. C'est intéressant. C'est tout simplement que, aussi, les communistes ont été lavés par leur participation majeure à la résistance. Ouais. Le pays qui a joué le rôle décisif dans la chute de Hitler et la défaite de l'Allemagne, c'est l'Union soviétique et sa résistance. C'est le parti, donc, qui s'est honoré, je dirais, de ce rôle, qui fait, du coup, qu'il ne peut pas être confondu avec l'extrême droite.
Allez, une dernière question de Pierre dans la Somme. Les partis de gouvernement ne commettent-ils pas l'erreur de trop souvent se positionner par rapport au Rassemblement national ?
Frédéric Saïs. Les partis de gouvernement, surtout, sont impuissants à réussir lorsqu'ils sont au pouvoir. Leur impuissance politique les conduit à échouer. Et on voit bien que l'avantage de Marine Le Pen, c'est de n'avoir jamais été au pouvoir. C'est aujourd'hui son argument numéro 1.
Merci à vous tous. On se retrouve demain en direct dès 17h30. N'oubliez pas, C'est dans l'air, c'est aussi en replay et rediffusé tous les soirs à 21h sur la chaîne France Info. C'est le canal 27. Belle soirée.
Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.